With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, sans doute l'épisode le plus difficile de l'histoire de l'émission. C'est The Big One, le moment que tout le monde craignait de voir arriver, et on va tout expliquer, tout résumer, tout analyser, tout décortiquer, les contextes, les enjeux de tout ce qui s'est passé cette semaine avec le déplatformement du président Donald Trump. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir, la joie, le privilège, l'honneur d'accueillir deux grands journalistes de la scène française. Je précise quand même que moi, je m'appelle Patrick Béja. Bonjour à tous, je suis votre hôte pour ce podcast. Et donc, je disais, on a d'une part Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric, aujourd'hui ?
Écoute, formidable, je ne suis pas encore déplateformisé, donc j'arrive encore à te parler. Discord n'a pas coupé mon compte et j'arrive à te regarder et sur Twitch, donc so far, so good.
Estime-toi heureux, tu es à la merci des oligarques numériques, Cédric, c'est ce qu'on comprend désormais. De l'autre côté, on a une personne qui fait sa première apparition dans l'émission et que je suis extrêmement heureux de recevoir également. La tâche est peut-être un petit peu intimidante pour une première, mais je suis sûr qu'on va relever ce défi avec brio. Comment vas-tu, Leïla Marchand des Échos, comment ça va ?
Eh bien, très bien, je suis très honorée d'être invitée pour ce Big One. on va voir comment ça va se passer si on arrive.
D'autant qu'en plus, ce sera le dernier, il n'y en aura pas après ça. Je veux dire. De toute façon, étant donné qu'il faut toujours se quitter sur un ode, tu vois, sur une crête, il s'apercevra à la fin qu'il ne fera jamais mieux et que donc, voilà, à partir de la semaine prochaine, il nous expliquera sa nouvelle carrière, probablement dans la menuiserie, me dit-on, mais je...
Écoutez, il y a de l'argent à se faire dans la menuiserie, donc comme on sait que je fais tout ça pour l'argent, il n'est pas impossible que je me lance. Mais avant
surtout,
de se lancer...
Surtout, tu manques pas de bois autour de chez toi, donc...
Ah oui, ça c'est sûr que... Mais là, il neige, il faut enlever la neige pour y arriver, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais attendre peut-être quelques mois encore. Avant de commencer à parler de ce sujet extrêmement important, je voudrais remercier tout de même les auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement l'émission. Aujourd'hui, je remercie Laurange, André Gentil, Kevin Matti, Fernandez EV, Fredo Pro, Olivier Maury, Capi, Pat et Steph, Dominique Van der Schiech. Mon Dieu, ce nom que j'ai écorché. Vandendriesch, voilà, c'est mieux. Davidovitch et le producteur de cet épisode, David Matignon, qui, à mon avis, a un patronyme fort adapté à la teneur de l'épisode d'aujourd'hui. Mais spécifiquement, merci beaucoup, Franck, pour ta production de l'émission aujourd'hui, le producteur exécutif, et on te remercie. Du coup, le sujet... d'aujourd'hui, c'est évidemment... alors, on va voir si on aura le temps de parler d'autres choses après, mais le truc, c'est que j'en vis vraiment pas les gens qui doivent expliquer les tenants et les aboutissants et le contexte du déplatformement de Donald Trump en 2 minutes au journal télé, même en 5, parce que c'est tellement complexe et important de comprendre le contexte de tout ça que je suis même pas sûr qu'on va réussir. Et puis surtout, je vous avoue que c'est une tâche qui m'a tenu éveillé pendant des heures et des heures les nuits qui viennent de s'écouler, parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à dire, tellement de moyens de se planter, tellement de moyens de mal expliquer certaines choses. Je crois qu'il n'y a jamais eu de sujet plus compliqué à traiter. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu, en particulier Oula. Ces dernières années, dans l'émission. Vas-y, Cédric, toi, tu me disais...
Explique donc la blockchain en 90 secondes, on t'écoute.
Bon, la blockchain, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais là, il y a des enjeux politiques qui sont peut-être, c'est difficile, mais peut-être encore plus importants que pour la blockchain, en tout cas dans l'immédiat aujourd'hui. Alors, on va résumer ce qui s'est passé, si certains d'entre vous l'ignoreraient. Suite à
Si vous vous réveillez d'un coma profond, il va falloir être très courageux.
Je sais même pas par où commencer, tu sais. Alors, le président Donald Trump est une personnalité qui fait débat depuis des années déjà. Et la question de son utilisation des réseaux sociaux a été discutée à de nombreuses reprises, évidemment, tout au long de sa présidence des quatre dernières années. Depuis quelques semaines et un ou deux mois, il conteste les résultats de l'élection américaine, les résultats qui ont été... c'était pas forcément nécessaire de démontrer qu'ils étaient légitimes, mais aucune des actions en justice qu'a initié le camp du président Trump n'ont même obtenu un quelconque gain de cause significatif. Et il continue à contester les résultats de l'élection américaine. Il a, par divers messages, tweets et autres communications, encouragé ses partisans à venir au Capitole, à Washington, à la capitale, à différents moments, mais en particulier au moment, le 6 janvier, où les parlementaires se réuniraient pour certifier les résultats de l'élection. Ce qui s'est produit, c'est-à-dire que une foule entre la foule de partisans et la milice armée s'est introduite dans le Capitole, dans le Parlement américain, pendant que les parlementaires étaient en train de discuter et de voter, s'en est prise violemment à certains membres des forces de l'ordre. Il y a eu des heurts. Plusieurs personnes ont trouvé la mort suite à cette invasion, cette insurrection. Et à la suite immédiate de tout ça, dont on discutera certainement encore plus, il y a eu une série de décisions prises par les plateformes des grands réseaux sociaux de restreindre d'abord, puis de supprimer les comptes, de fermer les comptes de Donald Trump et les comptes affiliés au contenu qu'il mettait en avant. Parmi ceux-là, on compte Twitter, évidemment, qui est la plateforme principale du président américain, mais aussi Facebook, YouTube, Twitch, Reddit, Google en général, Apple, avec des applications qui permettaient la diffusion de certaines idées du président comme Parler, on va y revenir également, Instagram, je crois que je l'ai mentionné, Snapchat, TikTok, etc., etc., Discord, Pinterest, enfin bref, Amazon AWS, toujours concernant Parler, des organismes de paiement également, comme Stripe, etc., etc. Donc, tous les comptes, on peut dire, je pense, de manière quasiment exhaustive, tous les comptes du président américain ont été supprimés des réseaux sociaux. Et ça a provoqué...
Ouais, même Uber, Monoprix et Vélib, il y a encore débat, quoi. C'est...
Quelques-uns qui restent potentiellement, oui. Ça a amené, évidemment, des discussions sur tous ces sujets, et en particulier en France et en Europe, où des voix se sont élevées pour dire que la chose était préoccupante. Je paraphrase un petit peu, mais en tout cas, les voix qu'on a entendues étaient plus critiques vis-à-vis des grands réseaux sociaux, en se posant la question du rôle de ces réseaux sociaux et de leur pouvoir. Je résume tout ça de manière, j'espère, assez neutre et objective. On va pouvoir discuter dans un instant. Il y a quelques questions qui, il me semble, suite à mes longues analyses et réflexions et lectures sur les sujets, je crois qu'il y a, on va dire, trois grandes questions qui ressortent de toutes les discussions, si on les boil down, si on en tire l'essence. Il y a la première question qui est « Faut-il tolérer l'intolérable ?», qui est une question presque philosophique. Une deuxième question, c'est-à-dire que pour des raisons de tolérance, est-ce qu'il faut tout accepter, l'intolérance, bien sûr, faut-il tolérer l'intolérance ? Pour des raisons de tolérance, est-ce qu'il faut accepter qu'on dise tout, y compris des choses qui relèvent de l'intolérance ? ce qui est un petit peu contradictoire. Une autre question qui est la question de la censure. Est-ce qu'il s'agit de censure, de supprimer les contenus, les comptes de réseaux sociaux? Et on se réfère souvent dans ce contexte à la question du premier amendement dans le cadre des États-Unis qui garantit la liberté d'expression vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de restreindre votre droit à l'expression. Et tout le monde note évidemment que Twitter n'est pas un gouvernement, donc il n'est pas directement concerné par la chose. Mais on parle aussi des questions générales d'utilisation de Twitter qui restreignent ce qu'on peut faire sur le service, mais qui sont appliquées de manière, je ne vais pas dire aléatoire, mais en tout cas inégale. Donc les conditions générales d'utilisation ne sont pas forcément le meilleur moyen d'expliquer les décisions de ces réseaux sociaux. Et enfin, la treizième question qui se pose, c'est est-ce que Twitter est un espace public ? Est-ce que c'est tellement important que de fait c'est devenu un espace public et que donc, même si c'est une société privée, on peut assimiler son utilisation à un droit de liberté d'expression qui serait protégeable. Donc ça, c'est les trois questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions et j'ai des éléments de réponse à apporter, bien sûr. Mais je propose, Cédric, tu as l'air de dire que tu peux discuter de tout ça, fingers in the nose.
on va laisser et il a commencé.
Bon, alors, d'une manière, je vais peut-être élargir la question, mais on n'est pas obligé de répondre à ces questions spécifiquement. Mais Leïla, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire, toi, si on remonte un tout petit peu la caméra et qu'on voit ça d'un point de vue général? Est-ce que tu peux nous livrer
ton déjà, c'était un moment vraiment historique, d'assister à tout ça entre d'abord l'invasion du Capitole et ensuite cette réaction où on voit que le président de la première puissance économique mondiale se retrouve coupé le sifflet par de tous les côtés. C'était quand même assez spectaculaire. C'est un spectacle que seuls les États-Unis souvent peuvent nous montrer. Et donc oui, ça fait émerger des questions assez anciennes finalement qui datent du début des réseaux sociaux sur comment est-ce qu'il faut équilibrer les débats entre le besoin de modération d'un côté et d'un autre côté pas d'excès de restrictions. Alors selon le bord politique duquel on est, les réponses sont différentes. Les démocrates disent que les réseaux sociaux n'ont pas fait assez, tandis que les républicains disent que c'est de la censure. Donc en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que cette capacité des GAFA à couper les comptes de tous les côtés, ça donne quand même une impression de censure parce que ça rappelle leur force de frappe et ça peut être assez effrayant de voir que comme ça, une poignée de personnes qui n'ont jamais été élues, qui font partie d'entreprises privées, ils contrôlent un discours public, même si Trump, c'était un cas à part quand même, assez exceptionnel, mais ça rappelle où se trouve le pouvoir dans la société numérique dans laquelle on est aujourd'hui. Et oui, ça pose énormément de questions. Je sais pas les réponses à tout, mais...
C'est sûr que ça pose beaucoup de questions, ouais. Cédric, est-ce que tu as...
C'est pas grave, moi j'ai les réponses à tout.
Ah, très bien, vas-y.
J'ai été confondu devant ce que j'ai vu ces derniers jours. Confondu. C'est-à-dire, de voir des gens qui ont une parole publique tomber dans une espèce de totale schizophrénie. C'est-à-dire que, je ne vais pas prendre d'exemple, et je vais essayer pas de... le but n'est pas de nommer des gens dont je dirais, toi, t'as tort. Non, mais j'ai vu des responsables publics quand même dire, oui, enfin quand même, c'est un vrai problème que Twitter puisse fermer le compte de Donald Trump. Ce sont les mêmes qui, il y a 6 mois, voulait faire voter la loi Avia sur la haine en ligne, qui justement donnait aux plateformes privées le pouvoir elles-mêmes de prendre la décision de couper des contenus. Alors, bon,
rappelons ce qu'est la loi Avia pour ceux qui n'auraient pas suivi. La loi Avia qui a été déboutée par le Conseil constitutionnel, si je ne m'abuse, qui a été
éparpillée façon puzzle par le Conseil constitutionnel,
voulait donner aux réseaux sociaux le pouvoir et le devoir de supprimer les contenus manifestement illicites. C'est-à-dire les contenus dont il était clair qu'ils étaient illégaux, criminels, en tout cas illégaux, auraient dû être supprimés dans les 24 heures, je crois, par les réseaux sociaux. Et cette loi a été vivement critiquée comme donnant trop de pouvoir à ces...
Oui, et puis surtout, il y avait un peu de flou dans la latitude d'appréciation des plateformes. Et puis, le problème sous-jacent, c'était de dire, en gros, on va quand même les pousser à sur-censurer, j'ai envie de dire, pour se protéger elles-mêmes, parce que en leur donnant ce pouvoir, on leur donnait aussi la responsabilité du contenu qui était publié sur leur propre plateforme, difficile à gérer, parce qu'il y a plein de moments, d'endroits, d'exemples, de trucs pour lesquels c'est difficile de comprendre ce qu'est la légalité d'un message ou pas. C'est-à-dire, dans le cas de Trump, c'est particulier. Et ce que je veux dire, c'est que ces mêmes responsables te disent, dans le même souffle, que évidemment, le cas de Trump est particulier, mais que c'est sur le cas général que cela les interpelle. Mmh. Or, il n'y a pas de souci sur le cas général. Je veux dire, Twitter là, vient de délaguer 70 000 comptes QAnon. Je ne vois pas les mêmes responsables publics revenir au micro en disant quand même, c'est un problème qu'on limite la parole des QAnon. Donc, le problème, pour eux, c'était Trump, ou en plus, je pense qu'il y a une espèce de projection, parce que tu te retrouves face à des responsables publics pour qui Twitter est un outil de communication intéressant et qui, d'un coup, se disent « Mais attendez, mais ça pourrait être moi le prochain. » Non, ça pourrait pas être vous le prochain, parce que vous n'avez pas le même type de parole délirante, vous n'êtes pas en train d'appeler à une insurrection contre votre propre démocratie. Donc, surtout, tout à coup, moi, j'ai vu des gens que je connais, même que je respecte souvent, dire « Oui, non, mais attendez, Twitter peut pas être géré comme s'ils avaient tous les droits sur leur propre plateforme. » Alors, c'est bien, mais en français, ça s'appelle « bouger les poteaux des buts » parce qu'on n'arrive pas à rentrer le ballon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route. Le danger qu'a couru Trump dans sa communication, c'est qu'il a utilisé Twitter, qui de fait est un merveilleux outil désintermédiant, c'est-à-dire qui lui permet de passer, de jouer à saute-mouton avec les médias traditionnels, qui eux, peuvent lui apporter, tu vois, peuvent le contredire, peuvent le couper, peuvent choisir ce qu'ils prennent dans ses discours.
Ce qui d'ailleurs s'est produit lors de son discours au moment de l'élection en novembre, la plupart des grands réseaux américains ont coupé Trump, le discours de Trump, quand il a commencé à dire qu'il y avait une fraude massive dans l'élection et qu'il avait en fait gagné au moment des premiers résultats de l'élection. Donc les médias traditionnels américains ont coupé le discours de Trump. Et bien sûr,
Et là aussi, il y a beaucoup de confusion, parce qu'en fait, on fait, mais c'est normal, ça tient aussi à la fonction et au moment, on fait la confusion entre le président Donald Trump et le candidat Trump. Et là, c'était le candidat qui s'exprimait, même s'il le faisait au podium de la salle de presse de la Maison-Blanche. Là encore, d'ailleurs, le compte que Twitter a censuré n'est pas le compte du président des États-Unis, mais le compte de Donald Trump, son compte personnel, qu'il avait choisi d'utiliser plutôt que d'utiliser celui du président des États-Unis.
Ils ont supprimé,
à mon avis, là aussi...
Ils ont supprimé un tweet du compte POTUS aussi, au moins un.
Quand il a commencé à l'utiliser comme plan B pour continuer les mêmes messages. Forcément, il y a un problème.
Je suis assez content de ne pas me retrouver seul dans cette analyse, Cédric, parce que j'ai absolument la même analyse que toi. Je trouve que sur la question de... Il y a une dichotomie, une schizophrénie, comme tu l'as dit, qui est absolument confondante, entre la loi Avia... et qu'ils ont soutenu, donc. Et d'ailleurs, que certains d'entre eux ont soutenu. On parle du gouvernement. Évidemment, l'opposition au gouvernement n'a pas soutenu la loi Avia, au contraire. Donc là, au moins, certains sont cohérents dans leur discours. Ceci dit, quand on parle de « faut-il tolérer l'intolérance », qui est à la base des décisions de ces réseaux sociaux, moi, je crois que... vous savez, il y a une petite illustration, une petite BD qui a été diffusée sur Twitter et que j'ai reçue, moi, on m'a envoyée à plusieurs reprises, qui explique que si on tolère l'intolérance, l'intolérance arrive au pouvoir et ne nous tolère plus. Donc, c'est une sorte de, cercle cassé qui fait qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance. Moi, je crois que ce n'est pas ça, le problème. On confond. En fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent la décision de Twitter par rapport au Donald Trump de 2016 à novembre 2020. Mais Twitter n'a pas jugé, avec sa déplatformisation de Donald Trump, le Trump de 2016 à 2020. Celui-là était sans doute intolérant, certainement compliquait la vie de tout le monde, mais il fallait faire avec. Ce qu'ils ont jugé aujourd'hui, c'est un cas, comme tu le disais, qui est une exception total, qui est une anomalie statistique. Et
une aberration démocratique, enfin.
Complètement.
C'est pas, je connais pas d'autres exemples.
Je dis souvent aux gens de faire attention, de ne pas appliquer des conclusions tirées de cas particuliers à des réflexions généralistes. Et là, c'est ce que tout le monde est en train de faire. La décision qui a été prise là est une, comme je le disais, une anomalie statistique. Donald Trump, depuis novembre, c'est un truc qui, j'espère, ne se reproduira jamais, mais en tout cas, est très peu probable de se reproduire. C'est un président d'une démocratie énorme aux États-Unis qui a organisé un coup insurrectionnel. Alors, c'était une bande d'abrutis qui n'ont pas réussi à faire beaucoup de mal, mais il n'empêche, quand quelqu'un essaye de commettre un meurtre, c'est quand même presque aussi grave que s'il réussit ou elle réussit à commettre un meurtre. Bon, l'exemple est peut-être mal choisi, mais...
Ces bonnes âmes, dans l'ensemble, te disent ce qu'il n'aurait pas fallu que Twitter puisse faire, mais ne te disent pas ce qu'il aurait fallu que Twitter fasse en l'espèce.
Alors,
il aurait fallu en passer par la justice. Je rappelle juste un détail. Le président de la République, et ça c'est vrai chez eux comme chez nous, jouit d'une immunité totale. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est le temps de la procédure qu'il aurait fallu pour arriver à enjoindre Twitter à fermer un compte. Enfin, on est chez les fous.
J'ajouterais même quelque chose qui est que ces gens qui nous disent aujourd'hui il ne faut pas que Twitter ait le pouvoir de faire ça, sont les gens qui sont spécifiquement dans le rôle où ils pourraient dire à Twitter ce qu'il faut faire. Le problème, en fait, c'est que c'est un problème insoluble, cette histoire. On ne peut pas établir de règles, ni les conditions générales d'utilisation, ni les lois ne peuvent établir de règles qui sont applicables partout dans le monde, à tous les cas, dans toutes les situations spécifiques. Mais j'aimerais revenir un instant à ce qui s'est passé spécifiquement il y a quelques jours au Capitole américain. Beaucoup de gens parlent de cette affaire sans vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et je vais faire un truc que je ne fais pas souvent dans l'émission parce que c'est une vidéo dont on va entendre le son. J'espère que ça ne va pas être trop fort. Mais je voudrais vous passer cette vidéo, des images de ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole. Et je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller regarder vous-même si vous le voulez. Passer outre l'analyse de Chris Hayes qui est un petit peu partisan. Regardons les images brutes de ce dont il s'agit. Et vous allez entendre, c'est assez édifiant. Donc là, on a des partisans de Donald Trump qui sont en train de casser une porte à l'intérieur. Ça, c'est le Capitole américain. Ils sont en train de casser une porte.
Et c'est la porte du Speaker's Lounge qui mène...
Qui mène vers le... Enfin bon, bref. Et là, il y a quelqu'un qui tire avec un pistolet. C'est l'intérieur. Imaginez si ça s'était passé au Parlement en France. Imaginez ça.
Et c'est encore pire aux États-Unis, qui est un pays où c'est vraiment le Capitole, c'est vraiment le saint des saints de leur démocratie. C'est aussi davantage patriote souvent. Donc pour eux, c'est symboliquement c'est.
Oui, il y a quand même une espèce de grande matérialisation des différents pouvoirs avec l'exécutif qui est au bout de cette longue allée avec la Maison Blanche et le Capitole qui lui d'ailleurs rassemble les deux chambres du Congrès.
Regardez encore.
Donc, oui,
ce que je voudrais dire, imaginez si ça se passait au Parlement en France, la manière dont réagirait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une foule qui est en train de forcer les portes du Parlement. Je vais arrêter ça. Le président américain a refusé les propositions d'amener la garde républicaine à Washington qui aurait pu sécuriser la... Il a activement refusé la chose. Et pendant que ça se produisait, pendant que les élus américains, les parlementaires américains étaient en train d'aller se cacher dans les toilettes, étaient en train de déserter le Parlement de peur de se faire attaquer par des gens, on ne savait pas exactement comment ils étaient armés, mais on a appris ensuite que certains étaient véritablement armés, il y avait quelqu'un avec des cocktails Molotov, etc. Le président américain était en train de les encourager à demi-mot. Son message, c'était « Bon, allez, ça suffit maintenant. Bon, rentrez chez vous. On vous adore. Hein. On vous adore. On se reverra très bientôt. You're very special. We love you. We'll see you soon. Go home. Allez, rentrez chez vous. C'est bon. » Et
On peut pas avoir d'exemple de ça chez nous, parce que ça, on aurait pu l'imaginer, tu vois, au moment des Gilets jaunes, par exemple, un assaut sur l'Assemblée nationale, etc. Mais on peut pas imaginer en même temps le président de la République qui est en train d'haranguer les foules en disant c'est bon, allez-y. Enfin, alors
et
que le président est à l'intérieur.
Et tu son vice-président, d'ailleurs, dont
Mike
il
Pence
dit...
a été le premier à l'unfollower sur Twitter.
D'ailleurs, le vice-président qui s'est retrouvé lui aussi les cibles en disant de Donald Trump, parce qu'il n'a pas voulu faire certaines choses que Trump, illégales que Trump lui demandait de faire. Et Trump a dit « Oui, bon, on est très déçus de Mike Pence, on gérera son cas à un moment, etc. » Et n'oubliez pas un truc que les gens oublient ici encore, parce qu'on est très loin de cette situation. Qu'est-ce qui se passe dans 8 jours maintenant, dans une semaine? Il y a l'investiture du président Biden. L'investiture du président Biden, c'est encore un espace public dont on a évidemment des craintes sur la sécurité de ce qui peut s'y passer. Et le président qui encourage les foules de ce type... Donc, bref, je pense que le message est passé. Il est impensable de ne pas couper la voix au président américain à ce moment. Et c'est une anomalie qui ne se reproduira, je pense, j'espère, jamais dans nos pays. Le président Trump, et encore une fois, ce n'est pas le président Trump de 2016 à 2020 qu'on juge, c'est le président Trump séditionniste, insurrectionnel, qu'ils ont muselé. Et ce n'est même pas qu'ils l'ont... Ils ont simplement dit, écoutez, nous, on n'a pas, on ne veut pas qu'ils puissent diffuser ces messages sur notre plateforme. Donc, la question de la censure. Premier amendement, le droit à ne pas être censuré, c'est le gouvernement que ça concerne. Le premier amendement américain dit, le gouvernement n'a pas le droit de vous restreindre la parole. Et même ça, c'est pas absolu. Le gouvernement a le droit, par exemple, de vous dire, c'est l'exemple qu'on prend toujours, on ne peut pas crier au feu dans un théâtre parce que ça peut provoquer un mouvement de foule qui peut être dangereux. Dans ce cas-là, le gouvernement peut vous dire non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc la liberté de parole n'est pas absolue. Donc déjà, même si c'était dans le cadre de liberté de parole, ça pourrait être concerné. Les conditions générales d'utilisation, je suis d'accord qu'on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Elles font des centaines de pages, personne ne les lit, et puis on a matière à interpréter un petit peu comme on veut sur Twitter, Facebook, etc. Ce qui reste
surtout
comme question...
dans le cas précis de Donald Trump, ça fait quand même des années que Twitter marche sur des œufs en expliquant que oui, il y a des trucs qui sont vraiment limites, mais que en même temps, c'est la parole d'un président élu et que donc ça a de toute façon c'est newsworthy. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire
que ça a un intérêt en soi, mais il est évident que toi ou moi aurions dit les mêmes choses sur Twitter, nos comptes auraient été fermés depuis bien longtemps.
Et c'est une chose qu'explique Twitter très clairement, c'est pas quelque chose qui est secret. Ils ont dit le président Trump, du fait de sa position, et c'est une chose qu'on comprend tout à fait, jouit d'un traitement particulier. Et j'en avais parlé, je l'ai expliqué et justifié. À mon sens, c'est normal, évidemment, qu'on va pas traiter le président américain de la même manière qu'on va traiter n'importe qui. À un moment où il commence à créer une révolution contre son pays, oui, peut-être qu'on peut traiter les choses de manière un petit peu différemment. Reste une question qui est-ce que Twitter, qui est pour moi une question vraiment intéressante, est-ce que Twitter est un espace public ? Qui est une question, en fait, que beaucoup de gens posent. Est-ce que Twitter est tellement important que ils ne devraient pas avoir le droit, et je dis Twitter, je parle évidemment de tous les réseaux sociaux, mais c'est marrant parce que Twitter, qui est le plus petit d'entre eux, est aujourd'hui le plus important, parce que quand on vous dit on n'a plus le droit d'utiliser Twitter, tout le monde panique, beaucoup plus que si on dit on n'a plus le droit d'utiliser Facebook, par exemple. Mais est-ce que c'est tellement important que c'est le simili espace public ? Et il faut bien comprendre ce qu'on dit quand on dit ça. Outre le fait que c'est une société privée, qui devrait, en théorie, avoir le droit de décider. Quand vous êtes dans un bar et que, dans le bar, vous vous mettez à vous battre avec les autres clients ou que vous mettez à hurler sans discontinuer pendant une demi-heure, le tenancier du bar, tant que ce n'est pas pour des raisons de discrimination raciale, sexuelle, ce qu'on veut, eh ben, il a le droit de vous dire « Monsieur, vous êtes gentil, mais on ne veut plus de vous chez nous ». C'est le principe d'une société privée. Ce n'est pas le gouvernement, une société privée a le droit de vous dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser mon espace, mon service, etc. » Si Twitter est un espace, entre guillemets, public, peut-être que la question peut se poser. Mais encore une fois, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le gouvernement devrait dire à Twitter, du coup, « vous n'avez pas le droit de dire à qui que ce soit de ne pas utiliser votre service ? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire ? Tout le monde a le droit d'utiliser. Est-ce que Twitter est un droit fondamental ? C'est ça la question, en fait. Est-ce que Twitter est un droit fondamental ? Je crois que, voilà, ça ne peut pas marcher. L'autre solution, c'est que le gouvernement dise exactement à Twitter dans quelles conditions ils ont le droit ou non de donner l'accès à leur service. Et ça, ça fait des années qu'on en parle maintenant. On est loin des débuts de Twitter, fin des années 2000, début 2010, où c'était la fête, la joie, tout le monde utilisait Twitter, c'était marrant, c'était rigolo. Ça fait des années qu'on est préoccupé par ces sujets. Ça fait au minimum, depuis l'élection de Donald Trump et depuis avant, et la montée des intolérances et des expressions, des opinions intolérantes exprimées sur ces réseaux, qu'on a cette préoccupation. Alors que des responsables politiques dont c'est... D'ailleurs, même ceux qui sont en dehors de la majorité ici, et c'est une voix qu'on entend partout en Europe, hein, même ceux qui sont en dehors de la majorité, qu'ils proposent quelque chose. Moi, je suis sûr que Twitter serait heureux d'avoir des règles claires à suivre. Et moi, je serais très content qu'il y ait des règles claires à suivre. Mais qu'ils proposent... Le problème, c'est que c'est impossible. La seule solution que je pourrais envisager, c'est d'engager des dizaines de milliers de juges ou d'auxiliaires de justice qui prendraient les décisions pour chaque cas sur Twitter. C'est la seule solution. Et là, il y aurait une décision légitime qui serait d'ailleurs, outre le fait que la barre serait placée différemment en fonction du pays où on est, parce que tout le monde n'a pas les mêmes références culturelles et tolérances culturelles. En France et en Europe, par exemple, on n'a pas le droit de dire certaines choses par rapport à l'intolérance, qui sont beaucoup plus acceptées dans d'autres pays. Et il y a des barres qui sont différentes dans chaque pays. Mais au-delà de ça, les décisions peuvent varier, même avec les mêmes règles. On va avoir des interprétations un petit peu différentes, et c'est le cas dans la justice. C'est pour ça qu'on a des juges qui doivent prendre en leur âme et conscience des décisions, mais on pourrait les contester. Il y a des processus pour les contester, mais on pourrait les contester, et on n'est jamais, on trouve des incohérences dans les décisions. La différence, c'est que c'est le pouvoir judiciaire, donc ça fait, ça tient avec la légitimité du pouvoir judiciaire. Alors peut-être qu'il faudrait faire ça pour Twitter. Moi, c'est la seule solution que je vois, mais bonjour, est-ce qu'on va engager 30 000 auxiliaires de justice pour modérer Twitter et Facebook ? Je ne crois pas que ça soit très réaliste. Donc, monsieur, je ne vais pas dire de nom non plus, je vais faire comme toi, Cédric, mais tous les tweets que vous voyez de responsables politiques outrés qui parlent d'oligarchie numérique, qui parlent de géants de la tech, proposez quelque chose, c'est votre boulot. Si vous avez une meilleure idée, allez-y, allez-y, on vous écoute. Et je suis outré et furieux que ces gens utilisent ce sujet de cette manière avec autant de cynisme. Je trouve que c'est cynique parce que c'est leur boulot, ils y sont depuis des années et s'ils avaient une solution, c'est pas, on parle pas du président Trump de novembre 2020 à janvier 2021. Celui-là, tout le monde est d'accord pour dire « Oui, bon, ok, c'est quand même pas trop mal qu'il l'ait déplatformé. » On parle des problèmes des réseaux sociaux qu'on connaît depuis des années et des années. Donc, s'il y a une solution, on vous écoute. On vous écoute.
Alors, moi, j'ai vu des... Pardon, vas-y,
Leïla.
Je disais... C'est vrai que c'est un problème qui est connu depuis le début des réseaux sociaux et que personne n'ose avouer en fait qu'il n'a de solution pour l'instant et c'est le problème de cette modération, c'est presque intrinsèque à la structure des réseaux sociaux qui mettent en avant les contenus clivants, qui fonctionnent avec les contenus qui appellent à l'émotion, qui rendent les discours extrémistes comme ça. Et en même temps, il n'y a que ces grosses structures qui pourront continuer leur activité si on met comme condition, par exemple, d'avoir assez de juristes pour vérifier chaque publication, ce qui paraît de toute façon impossible. Mais il n'y aurait que les gros GAFA pour pouvoir faire ça. Et en fait, ça ne favorisera pas l'émergence d'autres alternatives, peut-être de réseaux sociaux plus sains qui pourraient émerger parce qu'ils n'auront pas les moyens et il faudrait Alors, j'ai pas la solution non plus, mais il faudrait trouver un moyen de faire émerger des réseaux sociaux, peut-être financés par des services publics. Je sais pas si c'est vraiment la solution, parce que on voit ce qu'il y a en Chine, c'est pas forcément.
C'est ça, c'est le problème.
Ce qu'on voudrait.
Chacun va vouloir le sien. On aura des problèmes d'interopérabilité. On reviendra d'ailleurs au problème que Patrick mentionnait tout à l'heure sur le fait que tous les pays n'ont pas le même niveau de tolérance selon le type de discours et les types de contenus. Je voulais quand même mentionner, moi, j'ai vu une proposition intéressante, parce qu'évidemment la question c'est de dire, est-ce qu'il faut que ces plateformes soient responsables de ce qui se passe chez elles, comme le sont les médias par exemple, tu vois, si demain le site des Échos publie un papier avec des trucs orduriers dedans, bah, il en sera responsable, pareil pour tout le monde, parce qu'évidemment on a le contrôle éditorial très fin de ce qui est publié chez nous, ou est-ce qu'il faut qu'il soit comme aujourd'hui dans une position d'hébergeur, parce qu'en fait, ils ne font qu'héberger, en l'occurrence, les petits messages de leurs dizaines, centaines de millions d'utilisateurs. Et on voit bien que ni l'un ni l'autre de ces statuts ne sont satisfaisants. Je voyais la proposition d'un garçon très bien, que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Laurent Chemla. Il l'a fait sur Twitter et il l'a publié dans un blog sur Mediapart, je crois. Lui, il expliquait qu'il y a 20 ans, il avait réfléchi à ça et qu'il imaginait qu'en plus du statut d'hébergeur, on puisse créer un nouveau statut, une sorte de statut intermédiaire de ce qu'il appelait fournisseur de liberté d'expression. D'ailleurs, il paraît que c'est un truc qui a été d'ailleurs acté en droit au niveau européen pour des plateformes qui justement fournissent au grand public les moyens de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est un statut qui leur donne une totale immunité pénale quant à ce qui se passe chez eux, en échange d'un respect total de la liberté d'expression et puis d'une transparence sur les choses qu'ils sont amenés à censurer. C'est pas inintéressant, je trouve que c'est peut-être en tout cas un vrai début de réponse un peu constructive et un peu moins, tu vois, réflexe que ce qu'on voit ces derniers jours. Parce que, ouais, parce que quand même, là encore, les gens qui ne donnent pas de conseils à Twitter oublient que les conseils qu'ils leur donnaient jusque-là. Mais moi, je me souviens, la veille encore de la fermeture du compte de Twitter de Donald Trump, on disait, non, mais Twitter et Facebook en font pas assez pour filtrer, machin. Et oui. Ils le font et ils se font taper dessus. Je veux dire, on sent bien qu'on n'a pas dans l'arsenal législatif aujourd'hui de solutions satisfaisante, au-delà du fait que, moi je répondais à un camarade de France Culture qui disait il faut démanteler Twitter parce que c'est un monopole, et je dis attendez, alors ça fait beaucoup à dépacter dans une seule phrase, c'est une boîte de 4600 personnes, enfin c'est pas Standard Oil, hein. Et démanteler, ça veut dire quoi, démanteler Twitter qui ne fait qu'une chose dans la vie? Donc, je pense que la solution n'est pas de ce côté-là.
Il y a l'Europe qui est en train de travailler sur le Digital Services Act et Digital Markets Act, qui veulent réguler un petit peu tout ça, mais on a très peu de visibilité sur ce que ça veut dire sur ce problème spécifique, même s'il a été invoqué par certains responsables politiques. Moi, j'ai pas vu de quelle manière ça adresse le problème de la responsabilité des réseaux sociaux, au-delà de dire ils doivent être responsables ou ils doivent être plus ou moins responsables. Tu parlais de la question d'hébergeur. Moi, je ne suis pas convaincu que la proposition de Chemla soit vraiment applicable. Il faudrait que je regarde plus en détail, mais admettons.
Non, mais c'est-à-dire que lui renverse le truc, parce qu'il dit évidemment tout ce qu'on fait jusque-là, c'est d'ailleurs le cas dans le DSA, c'est de dire on va leur signaler des contenus problématiques et ils prendront la décision de les censurer ou non. Mais à partir du moment où on leur a signalé, ils s'en sont responsables. Ce qui est un peu le régime aujourd'hui, hein, sur tout type de contenu. Alors là, on ne parle pas de juste mais tout ce qui est certains contenus pornographiques, pédopornographiques, etc. Terrorisme, évidemment. Lui dit, l'idée, c'est de leur donner une vraie liberté, c'est-à-dire d'inverser la logique de la censure. L'intermédiaire, du coup, ne devient responsable que s'il surcensure plutôt qu'irresponsable à condition qu'il censure. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'incentive qu'on posait aujourd'hui, jusque-là dans les textes, c'était quand même de les pousser par essence à surcensurer pour eux se mettre en sécurité.
Oui, mais le problème, c'est que du coup, ils censurent moins. Peut-être. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a également un autre élément à prendre en compte. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Je vais le mentionner en passant. Dans ce fameux vote des parlementaires américains, 45% des républicains ont voté contre la certification de Biden. 45% des Congress people américains ont voté contre. Moi, je vois dans cette déplateformation, je ne sais pas quel est le terme exact, mais...
Déplateformisation.
Déplateformisation, admettons. On va l'entendre beaucoup ces prochaines années, donc retenez-le. Mais déplateformisation, en fait, comme on en parlait la semaine dernière avec Jérôme et Cédric, il y a en fait une des choses que les gens ne veulent pas voir, l'expression d'une volonté sociétale. Je crois qu'à travers les réseaux sociaux, ils ont tenu autant qu'ils pouvaient, ils ont attendu autant qu'ils pouvaient, et il y a une expression de la société qui dit « Ok, là, ça va trop loin. » De manière presque dépassionnée, presque, bien sûr, mais là, ça va trop loin. Et c'est un exemple qui, à mon avis, est bon, au-delà de toutes les théories et des réflexions généralistes qui, de toute façon, ne s'appliquent pas. C'est un exemple qui est bon de la société, parce que, encore une fois, on parle de tout le monde, hein. C'est pas que Twitter, c'est pas que Facebook, c'est les organes de paiement, les fournisseurs de services d'applications, c'est tout le monde. Toute la société a dit « Ok, maintenant, stop. Ça suffit. » Et si à ce niveau, on ne peut pas admettre que la société, alors des grandes sociétés tech, mais à mon avis, ça reflète le sentiment de la société, si à ce niveau, on n'a pas le droit de dire « Ok, stop », c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi le niveau d'après? Il est toujours difficile de tomber dans le point Godwin. Et je dis toujours que quand on parle de politique et d'insurrection, bah, c'est exactement dans ces moments qu'on a le droit de parler de Hitler et du parti nazi. La question que posait... Sacha Baron Cohen, il y a quelques années, de comment est-ce que Twitter aurait géré la montée en puissance d'Adolf Hitler, c'est une vraie question. C'est pas une question, c'est pas le point Godwin où des fans d'animé commencent à se traiter de nazis parce que il y en a un qui trouve que tel animé est meilleur que tel autre. C'est une vraie question. Et si ils n'ont pas le droit, ou si on leur conteste le droit, d'ailleurs ce qui n'est pas vraiment en train de se passer, mais si on leur conteste le droit de déplatformer quelqu'un quand ça se passe, je ne vais pas vous repasser les images et les sons de ce qui s'est passé au Capitole, mais s'ils n'ont pas le droit, alors à quel moment est-ce qu'on aurait dit « Ok, ça va pour Adolf Hitler, c'est quoi ?» C'est, enfin, je ne sais pas, en 33, c'est à l'incendie, c'est... D'ailleurs, il y a eu un truc totalement surréaliste, un message d'Arnold Schwarzenegger qui parlait dans sa tenue de parlementaire avec son épée de Conan et avec des larmes dans les yeux, des séquelles de son père qui a grandi en Australie au moment de la guerre. C'était...
En Autriche.
En Autriche, qu'est-ce que je raconte? En Autriche, au moment de la guerre, c'était surréaliste, mais encore une fois, c'est pour comprendre ce qui s'est passé là, il faut bien comprendre que c'est un cas exceptionnel, c'est une anomalie statistique, et comparer ça à ce qui pourrait se passer avec des responsables politiques en France, moi, ce que je dirais, c'est que, d'une part, si ça se produisait de cette manière, j'espère bien que les réseaux déplatformeraient les responsables. Parce qu'il y a un moment, on se rend compte que le fait de donner la parole à tout le monde, ça ne fait pas taire l'intolérance, au contraire, ça la diffuse. C'est ce qu'on disait encore il y a une semaine. Et là, la société dit stop. Et d'autre part, soyons clairs, personne dans le paysage politique français, et je crois même parmi les plus extrêmes en Europe, et certainement en France, même si, prenez les exemples des personnes que vous aimez le moins dans le paysage politique, personne n'arrive à la cheville de Donald Trump. Il n'y a aucun danger que la même situation se produise, que la même situation se produise chez nous. Donc, on parle d'une situation complètement exceptionnelle. Vas-y, Laila.
Mais là, ils ont dit stop, effectivement, parce que peut-être qu'ils se sont dit, là, effectivement, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et d'un côté, c'est un aveu de leur part qu'ils ont une responsabilité éditoriale plus forte que ce qu'ils peuvent... dire, mais on se demande aussi pourquoi est-ce qu'ils ont réagi là, à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que peut-être ils craignaient d'avoir des poursuites eux-mêmes après cet assaut du Capitole? Est-ce qu'ils craignent que l'administration Biden ensuite leur tape sur les doigts et dise « bon, voilà comment ça s'est passé, vous n'avez pas réagi, donc on va davantage vous réguler ». Donc ils ont montré que qui pouvait dire stop, mais en tout cas c'est on se demande comment est-ce que la décision a été prise en interne, parce qu'on voit que ça a généré aussi beaucoup de débats chez eux. Il y a eu des choses différentes qui se sont passées sur les réseaux sociaux, mais en tout cas par exemple chez Facebook, apparemment il y a des fils de discussion des employés de Facebook qui ont été bloqués, ils n'ont pas pu débattre entre eux de ça, tandis que chez Twitter ça a été davantage entendu de la part des employés. Puis chez Google, il y a ce syndicat qui est né justement la semaine dernière et qui a participé à demander à retirer les vidéos YouTube et à retirer le compte de Trump. Mais oui, on se demande comment est-ce qu'en interne, ils ont décidé ça.
Écoute, je ne vais pas repasser le son, mais... Enfin, vous savez quoi, je vais le repasser. Comment est-ce qu'ils en sont venus à décider ça ? Voilà pourquoi.
Ouais, ils voilà de regarder la télé pour le comprendre, d'autant qu'ils ont pris leur temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé par dire bon, on va limiter son accès pendant 2 semaines, et puis après on verra. Je ne sais plus quelle est la précision sur le temps.
Si, au départ, c'était 12 heures pour oui, qu'il retire.
C'était 12 heures les deux tweets, ce qu'il a fait immédiatement d'ailleurs. Hein, ce qui était,
et donc, il a récupéré son compte au bout de 12 heures, il a tweeté 2-3 fois des trucs tout aussi problématiques, et à ce moment, ils ont supprimé définitivement, et les autres ont suivi. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle ils ont pris cette décision maintenant. Ça devient ridicule peut-être, mais j'insiste. Une milice armée est entrée dans le Parlement américain, encouragée par le président. J'insiste. Voilà pourquoi ils ont pris cette décision. Et l'autre raison, certes, la question de est-ce qu'ils avaient peur de l'administration Biden peut se poser, évidemment, je suis complètement d'accord. Mais l'autre réponse à la question que tu poses, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si il faut mettre des règles claires, j'encourage tout le monde, moi y compris, les connaisseurs, les analystes tech et la classe politique, tous réfléchissons à une solution, qu'on donne une décision claire à Twitter et Facebook. Et les fermer, c'est pas une solution non plus. Enfin, je pense pas que qui que ce soit suggère ça. Mais donnons-leur des règles. OK, pas de problème. Donnons-leur des règles.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Parce qu'il y a des choses qui marchent. En plus, quand Facebook, par exemple, avait interdit les publicités politiques, il y avait eu un vrai effet sur la campagne. Il y a des choses comme ça où, par exemple, ils avaient supprimé un temps les suggestions de groupes dans les pages Facebook parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on est dans un groupe radical, on avait des suggestions d'autres groupes radicaux qui étaient proposés par Facebook et que ça accentuait... la radicalité des gens sur inscrits. Donc ça peut avoir des vrais effets.
Tout à fait. Et peut-être que ça devrait faire partie des demandes ou lois qu'on... Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas légiférer sur les réseaux sociaux. Hein. Au contraire, je dis faisons-le. Et si on a un moyen de le faire, peut-être que ça pourrait en faire partie. Il y a des expériences qui n'ont pas vraiment donné de bons résultats, comme le fait de mettre une petite friction au retweet en obligeant les gens à confirmer qu'ils veulent bien retweeter et en écrivant quelque chose. Ça n'a pas trop marché. La question de la publicité aux États-Unis est différente, la publicité politique, parce qu'elle est autorisée aux États-Unis. En France, on sait bien que ce n'est pas le cas, surtout pas pendant les campagnes. Donc, les conditions sont un petit peu différentes. Et les règles devraient forcément être différentes. Quelques autres petites choses. On peut parler de Parler qui s'est fait atomiser. Parler, donc, on en parlait également il y a une semaine ou deux. C'est le réseau qui, comme beaucoup d'autres, c'est les alternatives liberté d'expression qu'on a vu fleurir à chaque fois que des mouvements intolérants se sont fait déplatformer par le passé. Ils décident d'aller de créer leur plateforme qui, elle, est pour la liberté d'expression. Et à chaque fois, on se rend compte que, pour différentes raisons, ça finit par ne pas fonctionner. Et d'une part, et surtout, ils sont complètement envahis de messages et de contenus intolérants, pour rester gentils. Donc, Parler, qui était un petit peu ce qu'on voyait comme le Twitter de la droite de l'alt-right américaine, s'est fait déplatformer également de partout. Une remarque intéressante, il serait possible que une infrastructure qui puisse les supporter soit, enfin les soutenir, enfin les héberger, soit l'infrastructure chinoise. Ça serait d'une ironie suprême que l'alt-right aille sur des infrastructures chinoises, mais à ce stade, je pense pas qu'ils vont le faire, mais ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il n'y a plus aucune infrastructure sérieuse américaine qui peut les... Ils peuvent plus fonctionner. Et d'ailleurs, ils ont lancé un procès contre AWS, donc Amazon, l'hébergement des serveurs, en disant qu'il y avait une conspiration avec Twitter, et qu'en fait, la raison pour laquelle AWS a déplatformé Parler, c'est qu'ils sont de ligue avec Twitter pour éviter qu'il y ait de la concurrence à Twitter. Bref, ça va mener nulle part, ouais. c'est assez ridicule.
D'autant que là, on n'est pas sur des questions de liberté d'expression, si tu veux. Le choix de ton hébergeur n'est pas un droit acquis. Il y a une offre d'hébergement dans le monde entier. Enfin, c'est pas... Voilà. Ton choix n'est pas restreint. Enfin, c'est, ouais. Voilà, tout ça n'existe pas.
En parlant de Chine...
Et puis alors, pour avoir passé du temps sur Parler... C'est-à-dire qu'en fait, la vraie promesse de Parler, au-delà du fait que c'est l'espèce de bac à sable de l'alt-right américaine, c'est qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de modération, il n'y a rien. Et bien, ça se voit hein, dans l'ensemble.
Mm-hmm. On me fait remarquer dans la chatroom sur Twitch des Chinois qui autoriseraient la non-censure, c'est rigolo. Évidemment, le service ne serait pas autorisé en Chine elle-même, c'est juste qu'il serait hébergé pour le reste du monde. On dit la Russie aussi, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant les épaules en Russie. Et d'ailleurs, les différents organismes de sécurité américains ont conclu que l'attaque SolarWind était bien probablement d'origine russe et pas d'origine chinoise, comme le prétend le président américain. En parlant de la Chine...
La stupéfaction est totale, là, encore une
complètement.
Fois.
Complètement. Oui. En parlant de la Chine, en parlant de la Russie et peut-être de la Chine, parmi les foules qui sont rentrées dans le Parlement américain, il y a fort à parier, enfin, il est possible qu'il y ait eu des agents de gouvernement étranger. Là où ça devient intéressant, c'est que, évidemment, tout le monde a fui. Les employés du gouvernement ont fui et ont laissé leurs ordinateurs sans se déloguer en libre accès. Et donc, il se pose une question absolument épineuse aux responsables informatiques du Capitole. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces ordinateurs ? Déjà, est-ce qu'ils ont été infectés ? Parce qu'on passe avec une petite clé USB, on fait un petit truc rapido, et c'est tout le système informatique du Capitole et donc du gouvernement américain qui est vérolé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Grande question. Je voulais aussi parler de la Chine.
On fait un audit de sécurité. Ça, c'est pas si délirant que ça. D'autant que tu as aussi tous les ordinateurs des parlementaires, etc., qui étaient déjà des machines mobiles. Enfin, il n'y avait pas, si tu veux, une chape de plomb physique sur toute l'organisation informatique du truc. Donc, je pense que ça leur pose une question à cet instant précis en disant pop, on l'avait pas vu venir, tu vois. Mais oui, ça, c'est des choses qui se règlent.
Ouais. La Chine, j'ai appris ça en écoutant un podcast. J'avais raté la news, c'est Amy Webb sur This Week in Tech qui en parlait. La Chine est en train de nationaliser Alibaba. Et Alibaba a déployé un algorithme pour le dernier Singles Day, le 11 novembre dernier, qui a prédit les achats de 500 000 acheteurs et qui avait pré-packagé les achats. Alors, je ne sais pas si c'était individuel, mais ils avaient pris en compte des faisceaux d'informations qui allaient au-delà des achats précédents, qui réunissaient des informations qui venaient d'un petit peu partout. Et ils ont prédit les achats. Ils avaient pré-emballé 500 000 articles. Alors, ça se trouve, ils disaient, bon, c'est les articles les plus vendus, on les pré-emballe comme ça s'est fait. Mais ça se trouve, ça allait un petit peu plus loin. Il faudrait que je regarde ça plus précisément. Mais je trouve ça très intéressant que la Chine soit en train de nationaliser Alibaba pour d'autres raisons. Hein. Pour les raisons qu'on connaît, dont on discutait déjà, de la puissance de la tech en Chine, qui commence à prendre une importance un petit peu inquiétante pour le gouvernement chinois, mais ils vont avoir accès à tous toutes ces technologies également. Et un algorithme prédictif qui fait ce genre de choses, je suis sûr qu'il pourrait facilement être reconverti pour d'autres utilisations. J'ai également
adoré... Il y a un rapport
adoré...
avec le fait que Jack Ma ait disparu.
Alors, on en parlait. Jack Ma a très sagement décidé de ne plus trop parler en public. Je pense que c'était une sage décision.
La news du matin, quand même, c'était qu'il s'apprêterait à nationaliser Alibaba. C'est quand même un truc de fou.
Oui, oui, c'est ce qu'on a entendu. Ouais, c'est ça, peu après Noël. Ouais, c'est invraisemblable. Et c'est passé complètement inaperçu, cette news. J'ai dû la prendre des jours après, mais c'est énorme. Et pour finir sur Parler, d'une part, il y a eu une rumeur folle qui disait sur Parler, certains ont pensé que c'était George Soros, l'épouvantail de l'alt-right, qui est un petit peu pour eux un Illuminati de la gauche américaine, qui contrôle le monde entier. C'est un petit peu les juifs au nez crochu, hein, pour l'alt-right. Ils ont cru pendant un moment que c'était lui qui finançait Parler, donc ils étaient très embarrassés sur leur utilisation de Parler. Il y a eu un autre truc marrant, un post sur Parler qui disait c'était at White House Pardon Attorney qui disait « Nous avons peu de temps. Le président est en train de penser à émettre un pardon légal pour les patriotes qui sont allés dans le Capitole. Mais nous avons besoin de vos informations. Nous avons besoin, si vous voulez un pardon du président, donnez-nous votre nom, votre ville et les crimes pour lesquels vous pensez que vous auriez besoin d'être pas pardonné, mais enfin, le terme m'échappe. Envoyez-nous cette liste d'ici mardi pour que le président puisse émettre un pardon. » Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, mais c'était drôle. Et puis, il faut signaler aussi que les gens qui ont envahi le Capitole, enfin, un certain nombre d'entre eux sont en train de se faire arrêter par les forces de police, qui ont utilisé notamment la reconnaissance faciale pour retrouver les gens, les mettre sur des no-fly lists et les arrêter dans les aéroports et ailleurs, notamment le monsieur tête de bison et celui qui avait attrapé le pupitre de Nancy Pelosi se sont fait arrêter, et d'autres aussi. On a eu des images assez édifiantes de personnes qui se font arrêter dans les aéroports, etc., et qui, évidemment, comme ce sont de grands courageux, se mettent à pleurer et à appeler leur maman. Donc voilà. C'est un peu...
J'ai beaucoup aimé cette vidéo.
Je dirais qu'ils sont presque surpris.
Mais oui, ouais, non, mais c'est ça qui est... Vous savez,
de cette vidéo sur place, où il y a une jeune femme qui sort les yeux en larmes, parce qu'évidemment, il y avait des gaz lacrymogènes, et mais nous envoyer des gaz lacrymogènes. Ben oui, mais quand même, ouais, mais c'est une révolution, quoi. Oui, ben une révolution, ça pique les yeux.
On a, vous savez à quoi ça me fait penser, ça sera peut-être, j'aurais plein d'autres choses à dire évidemment, mais on est déjà très long et on va arriver à la conclusion. Vous savez, ça me fait penser pour ceux qui étaient qui avaient déjà un certain âge dans les années 90, vous vous souvenez certainement des cultes, et on commençait à entendre parler, c'était
des
une fascination, pardon,
oui.
Pas des, oui, mmh. Des sectes, exactement, et il y avait une fascination pour les sectes, et on a eu de nombreuses sectes qui ont été détaillées, le processus, les manières dont fonctionnait l'attachement à une secte, les croyances à une secte, comment des gens se retrouvaient ruinés, et c'était des gens entre guillemets normaux, parfaitement cohérents, des gens normaux qui se retrouvaient à faire des choses complètement incroyables. On est un petit peu dans le même genre de démarche, là, de mécanique. Trump est une sorte de leader, secte religieux, et les gens qui se retrouvent attrapés ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, presque. Ils sont tellement en tunnel dans leur croyance et dans la conviction que l'élection a été volée, qu'ils se disent, bref, moi ça me fait penser aux sectes.
Mais... Voilà. Ces sectes, elles avaient quand même une énorme qualité. Qu'on parle de, souviens-toi, Heaven's Gate ou avant, mais là c'était fin des années 70, Jim Jones, Guyana et tout ça, c'est que c'était des sectes suicidaires. Et de fait, là, on serait assez partant pour que cette secte-là soit suicidaire également. Moi, en regardant les images, quand les images du Capitole ont commencé à sortir, moi, j'étais devant ma télé à crier « Dracarys, Dracarys !» Tu vois, bon. voilà, malheureusement, ce mouvement-là ne va pas s'autodissoudre.
Ah, ça, oui. Vas-y,
oui,
Leïla.
Quand tu vois quelqu'un qui verse un peu dans les théories complotistes qui sont sur ce genre de réseau, c'est vrai que c'est dur d'aller discuter avec eux. Il n'y a pas de dialogue possible, comme si on était dans deux réalités complètement différentes. Et quand on voit ce qui a circulé sur, sur la personne qui était déguisée, là,
Jay Canielli, ouais.
Oui,
qui est de son vrai nom, enfin peu importe, et qui là est emprisonné en Arizona et dont la maman dit il a pas mangé depuis vendredi parce qu'il refuse de lui servir de la nourriture bio. Et là tu dis mais ce film est trop, ce film est incroyable. Cette saison de West Wing va trop loin, moi je trouve.
On est d'accord. Je crois qu'il y a, on en rigole. Il y avait effectivement aussi des gens armés. Il y a pour moi, c'est vraiment la société qui dit stop, qui dit OK, maintenant c'est fini. Et c'est un message important donné au futur. Et il était, non seulement c'est un message important, mais il était important et presque providentiel qu'il soit exprimé, ce message. Alors évidemment, tout peut déraper. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce que ça va donner dans les années à venir. Et peut-être que tout se passera de la pire des manières et que c'est le début de la fin, admettons. Mais à ce stade, je crois qu'il est difficile, il aurait été difficile de prendre une autre décision. Et je dis, pas heureusement que ça s'est produit, évidemment, mais il était temps qu'on dise stop. Il était temps qu'on dise, enfin, on est, comme tu dis, cette saison de West Wing va trop loin, on était en train de sombrer dans la pire des... C'était une sorte de film d'action ridicule, et heureusement que c'était ridicule. Imaginez que le résultat de l'élection ait été plus serré. Imaginez que les gens étaient...
Imaginez qu'il n'y ait pas eu de pandémie mondiale cette année, Trump était réélu, comme tous les présidents qui se représentent aux États-Unis à un moment de croissance économique. Il avait un bilan économique qui était tout à fait correct, alors avec tous les problèmes qu'on connaît, mais qui tiennent à la société américaine plus qu'à Trump lui-même, mais il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas réélu. Il y a quand même un bonus au sortant massif aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne leur donne que deux mandats, parce que sinon il y en a qui seraient là pendant 40 ans. Et il n'y aurait pas eu le Covid et sa gestion désastreuse. Apparemment, le discours de Trump, sa nature même et sa manière de faire les choses n'aurait pas suffi à ne pas le faire réélire. Mais enfin, en même temps, s'il avait été réélu, il n'en serait peut-être pas venu à lancer une attaque contre le Capitole. Mais ça fait quand même froid dans l'eau.
Bon, je vais conclure en disant qu'il y a un autre article hyper intéressant sur toutes les choses que les gens qui savent disent et sur lesquelles ils se plantent d'un point de vue de la modération. Je le mettrai dans la newsletter, donc comme toujours, vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com, mais c'est hyper intéressant le fait que les hommes politiques ne se fassent pas déplatformer, que les contenus soient supprimés de telle ou telle manière, c'est un modérateur qui a pris une liste des choses que les gens disent et qui sont simplement fausses, encore une fois. Donc, je le mettrai dans la newsletter, vous pourrez lire ça. Bon, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je trouve qu'on a peut-être été assez, pour certains, assez catégorique dans nos analyses. J'espère qu'au moins, on vous a donné les clés pour comprendre le véritable contexte de tout ça, mais... Ma conviction profonde est qu'aujourd'hui, on a fait une analyse qui est assez objective de ce qui s'est passé cette dernière semaine et ces dernières semaines, et des raisons pour lesquelles ça s'est produit de cette manière, et sans doute des raisons pour lesquelles ça ne pouvait pas se produire d'une autre manière. Et je suis intimement convaincu que n'importe qui, les gens qui critiquent ces choses-là ou qui disent « il faudrait que Twitter obéisse à des règles », etc., s'ils voient les problématiques qu'on a posées, si on réfléchit aux problématiques vraiment qu'on a posées aujourd'hui, arriveraient aux mêmes conclusions. Le fait que déplatformer Trump était sans doute inévitable, peut-être même qu'il reviendra un jour, j'en sais rien, ça je... peut-être. Mais le fait que c'était inévitable à ce stade, vu ce qui se passait, le fait qu'on n'a pas vraiment de solution sérieuse pour Twitter et pour Facebook, et que si on en avait, on serait heureux d'en obtenir une, donc le fait de dire « il faut que », c'est bien gentil, mais il faut aller un petit peu plus loin si on veut que ça soit sérieux, « il faut que », c'est des grands principes qui ne servent à rien dans la pratique. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, j'espère que ça vous aide à comprendre la réalité de cette situation, qu'on n'est pas dans la démagogie, qu'on n'est pas dans les effets d'annonce, et que ça vous aide à comprendre ce qui se passe réellement et ce qui se joue réellement là-dedans. C'est le but en tout cas de l'émission, j'espère qu'on a réussi pour ce sujet. On pourrait en parler encore une heure, hein. Quand je le disais, j'ai beaucoup de sympathie et de pitié pour les gens qui doivent résumer ça en deux minutes, parce que c'est simplement impossible. Bon, est-ce que vous voulez ajouter une conclusion ? Ou c'est terminé ? C'est terminé.
Je ne sais pas ce qu'on ajoutera de plus intelligent que ce qu'on a fait jusque-là.
Parfait, parfait.
Ça n'a pas du tout le même style sur Twitter.
Pardon, j'ai pas entendu les mots.
Avec la présidence de Biden, ce sera beaucoup plus mesuré sur Twitter. On va voir sur le compte.
Écoute, on peut l'espérer. On peut l'espérer, et moi ce que j'espère, c'est que suite à ça, c'est un coup de semonce qui voudra dire que les présidences à venir, il fallait qu'on nous rappelle avec un choc ce que veut dire la démocratie et pourquoi elle est précieuse et fragile, et j'espère que ça sera une partie de ce choc. On verra. Bon, une petite pause pour vous parler de Patreon. Et justement, pour vous parler de Patreon, j'aimerais vous dire deux choses. D'une part, vous savez qu'il y a une promo en ce moment, une promo sur le niveau qui donne accès au Discord privé, qui va durer uniquement jusqu'à la fin janvier, qui vous permet de payer beaucoup moins cher cet accès, et vous continuerez à garder cet accès à prix réduit si vous vous abonnez aujourd'hui. C'est la promo Bonne Résolution. Si votre résolution, c'est de sauvegarder la démocratie, peut-être que vous pouvez participer en aidant le Rendez-vous Tech, puisque nous contribuons à la démocratie en vous faisant comprendre les enjeux de ce type de décision. Je pousse peut-être un tout petit peu, hein. Mais c'est une promo en tout cas qui vous donne accès à un moyen simple et important de soutien de l'émission. Si vous appréciez le travail qu'on fait, eh bien je vous encourage à peut-être réfléchir à la chose. Simplement, allez sur patreon.com/rdvtech et regardez les bonus que vous propose le soutien, comme le fait de ne pas avoir de pub, de ne pas avoir cette partie justement où je parle de Patreon en milieu d'émission, d'avoir les time codes dans les épisodes sur le flux privé, comme ça vous pouvez sauter les parties qui vous plaisent un petit peu moins, etc. etc. Il y a même des contenus bonus dans la fameuse newsletter dont je parlais tout à l'heure, donc patreon.com/rdvtech pour y avoir accès. Et je voulais aussi mentionner un commentaire que j'ai eu sur Apple Podcast. C'est quelqu'un qui dit « Trop de blabla, entre digression personnelle et sociétale, ce rendez-vous n'est pas trop tech. J'aimais et j'aime de moins en moins, il y a beaucoup mieux. » Alors, je suis désolé de devoir partir, personne qui dit ça, mais ça me donne l'occasion de préciser une chose, c'est que je dis toujours depuis des années que mon objectif avec le Rendez-vous Tech, c'est de vous expliquer la tech, parce que si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde. C'est pas possible de ce qui se passe dans le monde, ça touche tellement à tout, c'est comme l'économie ou la politique, il faut comprendre la tech, il faut comprendre les contextes et les enjeux, sinon on ne comprend pas le monde. Alors il y a quelques années, ça passait un petit peu plus par les App Store et les téléphones mobiles. Aujourd'hui, évidemment, on en parle encore beaucoup et c'est important. Et le dernier iPhone, on en parle quand il sort, et les évolutions de YouTube et de Google, on en parle aussi. Mais il serait journalistiquement impossible, enfin ça serait une faute journalistique de ne pas parler de ces enjeux sociétaux, à mon sens, pour ce que je veux que l'émission soit. Donc je suis désolé de devoir partir, cher monsieur ou madame, mais pour moi il est au contraire extrêmement important de parler de tout ça. Donc je pense que j'espère qu'on n'aura pas autant à le faire dans les mois à venir, parce que les choses se calmeront un petit peu, mais à voir ce que ça donnera. J'ai vu que la chatroom voulait que le titre soit « Une révolution, ça pique les yeux ». Je pense que c'est un excellent titre pour l'épisode, mais je ne pense pas que ça va être le titre. Pour moi, il y a un titre qui est plus symbolique encore. Je vais l'appeler « Today Platform » or « Not Today Platform » parce que c'est vraiment ça le cœur de la question de l'épisode d'aujourd'hui. Bon, écoutez, on a déjà fait très très long. Je vous propose de passer rapidement sur quelques sujets supplémentaires pour le principe. Vous avez sans doute entendu parler d'Apple qui serait en train de discuter avec Hyundai et puis maintenant avec Mercedes pour la production d'une Apple Car dès 2024. Cédric, tu y crois, toi ?
Pour Hyundai, oui, Mercedes, je ne sais pas, je n'ai pas vu la source, mais
non, je veux dire, est-ce Hyundai, que tu crois qu'Apple est effectivement en train de négocier avec un constructeur et que l'Apple Car va commencer en production avec quelques centaines de milliers en 2024?
Ah, ça reste une grande question. parce qu'évidemment, là, s'engager sur des délais dans ces métiers-là, c'est un peu compliqué, surtout dans un métier qui est assez éloigné de son métier de base, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce qui s'était passé il y a un peu plus de 10 ans quand ils ont voulu faire un téléviseur. Où finalement le truc n'est pas sorti, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on a quand même plusieurs idées. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, au moment où ils étaient prêts à le sortir, ils avaient perdu probablement une avance technologique ou un intérêt technologique face à la concurrence des Samsung, des LG, etc. Ouais. Et tout à coup, il sera arrivé avec une télé à un prix Apple, mais difficile à justifier face à une concurrence directe. Ça, ce n'était que mon analyse à moi. Pour la voiture, finalement, c'est rassurant. Moi, je suis ravi de savoir qu'ils travaillent dessus. Et que c'est juste sur une voiture et pas juste sur des technologies autour de l'automobile, l'amélioration, l'embarquer, le reste. Non, une vraie voiture. Mais ça pose tellement de questions. T'imagines ? Ah, la voiture est en panne, il faut que je passe à l'Apple Store. Quoi ? Déjà, il faut te garer.
Acheter un bon, ça coûte 1500 euros.
Voilà. Mais en même temps...
La voiture est un accessoire de l'iPhone, donc si tu as une mise à jour qui merde.
Se prendre à imaginer ce à quoi ressemble une voiture selon Apple, forcément, c'est passionnant. Maintenant, c'est vrai que ça pose plein de questions parce qu'ils ne pourront le faire que s'ils ont une avance technologique sur... Allez, en gros, c'est soit tout ce qui est embarqué, l'interface et les batteries. Ouais. Le reste, on est presque dans la commodité. Mais bon, c'est intéressant que tout à coup, il y a des trucs qui sortent du bois en disant qu'ils ont des partenaires industriels parce que l'autre problème culturel pour Apple, c'est qu'ils n'ont pas d'usine ou quasiment pas.
J'imagine que Hyundai, y a quelqu'un chez Hyundai qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a dit.
C'est eux qui l'ont laissé.
C'est eux qui l'ont dit. Et il est probable que Apple soit en train de discuter avec plusieurs constructeurs. Bref. Facebook et Google vont se conformer au petit label de confidentialité d'Apple. Donc, Google n'avait pas updaté ses apps depuis 3 semaines pour ne pas mettre les labels. Mais maintenant, ça y est, ils vont le faire. Bon, écoutez, je crois qu'au final, malgré les grands cris d'Orfraie ou d'Orfraie, je ne sais jamais.
D'Orfraie,
c'est bien ça, hein, c'est des oiseaux. Les grands cris d'Orfraie de Facebook et pas de Google, mais de Facebook, au final, ils vont simplement s'exécuter et ça va être terminé. Et voilà. Mais bon, à voir. Pour ceux-là, en tout cas. Le CES commence plus ou moins d'ici 2 jours. Alors, ça sera complètement virtuel. Est-ce que tu en attends quelque chose ? On posait déjà la question la semaine dernière. Mais Cédric, toi, tu as l'habitude d'y aller. Donc là, tu ne vas pas pouvoir. Et peut-être, Leïla, je ne sais pas si tu es une aficionado du CES, mais est-ce que vous en attendez des choses ?
Je suis allée au Web Summit à Lisbonne, par exemple, mais le CES, j'y suis jamais allée. Je me suis inscrite, du coup, comme c'était beaucoup plus simple cette année de pouvoir s'inscrire.
Bah oui.
Mais bon, c'est pas le même effet waouh, c'est sûr.
Non, l'effet waouh n'est pas exactement le même. C'est amusant, j'ai posté ce matin une vidéo que le CES a publiée où on voit des jolis plans en drone de Las Vegas et des hôtels et tous les immenses écrans qui leur servent de panneaux de pub sont devenus CES, we miss you. Bah ouais, je comprends. tu m'étonnes, 180 000 personnes. Bon, c'est pour l'instant ce que j'en vois, il y a un vrai problème, c'est qu'autant les événements sont très numérisables, comme on l'a vu avec toutes les confs depuis le début de l'année, et où finalement ça marche pas mal, ils ont trouvé des formats intéressants, autant on n'arrive pas encore vraiment à numériser un salon, parce qu'un salon, c'est deux choses, c'est les choses que tu sais que tu veux aller voir, et puis les choses que tu t'ouvres à découvrir. Et c'est difficile de faire de la découverte. Il faudrait avoir inventé le Netflix du salon, mais là aussi, tu passerais 2 heures sur la page d'accueil en disant « Attends, qu'est-ce que je veux aller voir ?» Là, tu arrives, il y a le logo d'une boîte, tu ne sais pas ce qu'ils font, les classifications ne sont pas… Voilà. Bon, donc, pour l'instant, il y a les confs de toutes les grandes marques, ok, c'est très bien. Après, il va falloir trouver autre chose. Mais en même temps, ça donne un espoir à CIS pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'il y a encore un avenir pour des événements physiques. Même si honnêtement, tout le monde te le raconte, hein, quand tu vas à CIS, tu reviens avec la crève déjà, en temps normal, à chaque fois. Oui.
L'année dernière, c'était d'ailleurs l'un des vecteurs de propagation du Covid-19, c'était le CES. Donc,
ah oui. Et là, oui. J'ai vu que justement, ils allaient peut-être présenter des choses en rapport avec la pandémie, par exemple des masques connectés, des choses comme ça.
Certainement, oui. C'est, je ne sais pas si c'est enthousiasmant, mais on en
c'est
aura.
C'est du solutionnisme technologique, ça marche toujours.
D'ailleurs, je reviens dessus, mais est-ce que je vais partir là-dessus ? Juste deux secondes, allez. Si les responsables politiques avaient adopté la solution Apple-Google pour le stop-Covid, ils auraient été beaucoup plus audibles maintenant en critiquant le Twitter, encore que. Mais il y a eu un tel opportunisme ridicule politique et une posture anti-tech à un moment où ça aurait pu être utile, où ça aurait mieux fonctionné que ce qu'ils ont proposé, que forcément, pour moi, ça me paraît, ça n'a pas aidé à les écouter quand ils ont dit ce qu'ils ont dit maintenant avec la question de Trump. Cette histoire de contact tracing Apple-Google me reste vraiment en travers de la gorge parce que c'était, au-delà de l'efficacité des apps, le choix technologique qu'ils ont fait était très problématique. Bref, bon... Intel serait en train de chercher des partenaires pour fabriquer leur plutôt que de tout fabriquer eux-mêmes. Ils sont en train d'arriver à des conclusions auxquelles le reste du monde était arrivé il y a 5 ou 10 ans. Amazon est en train d'acheter...
Ah, c'est compliqué. Attends.
Vas-y.
On
ne peut
pas passer sur une révolution culturelle comme celle-là
en 10
secondes. C'est impossible. Parce que, si tu veux, le premier métier d'un fondeur comme Intel, surtout Intel, c'est pas de faire les puces, c'est d'inventer les technologies qui vont te permettre de les fabriquer. C'est-à-dire que l'intelligence du design industriel, elle n'est pas dans le produit fini, elle est d'abord dans le produit qui va te permettre de produire voilà, et d'imaginer les technologies qui vont avec. Donc,
tu veux dire la fabrication pour un fondeur, c'est la fabrication.
Exactement.
Le fait, comment est-ce qu'on va faire pour faire des puces en 7 nanomètres plutôt qu'en 10 nanomètres ? Parce que technologiquement, c'est très compliqué.
Avec, et puis surtout, la propriété de ces technologies, parce que normalement, c'est touche pas au Grisby, tu vois ce que je veux dire. Du coup, pour eux, c'est une révolution terrible. Je pense aussi que c'est un aveu d'échec. Et moi, ça me rend toujours triste parce que j'aime beaucoup Intel.
Amazon est en train d'acheter des Boeing 767. Ils en achètent 11. C'est marrant parce que je me souviens encore, il y a quoi, 2-3 ans, on disait, Amazon a demandé une licence de transporteur. Peut-être qu'ils vont se mettre à faire eux-mêmes leur livraison. Ils en sont à acheter 11 Boeing. Voilà. Cameo, vous vous souvenez de ce petit service qui propose de payer pour des messages de personnes connues? On en parlait en début d'année, vous pouvez payer quelques dizaines, quelques centaines de dollars pour avoir une message personnelle d'une personne connue qui va l'enregistrer pour vous en fonction de sa popularité. Ils ont réussi à faire, j'ai dans mon résumé, ils ont envoyé 1,3 million de vidéos personnalisées et ils ont eu 100 millions de dollars en transactions. Et il y a 150 personnes qui ont gagné plus de 100 000 dollars sur Cameo. Et donc, ils sont en train d'embaucher des gens. Je trouve ça intéressant parce que c'est assez... ça me paraît assez symbolique de la manière dont les relations entre les personnalités publiques et leur public se tissent avec quelque chose de beaucoup plus accessible. Et Cameo, c'est pas le plus grand succès de l'histoire, mais je pense que ça leur... Ça montre bien que c'est une composante de ce nouveau type de relation.
C'est un peu une version virtuelle de ce qui se fait déjà beaucoup aux États-Unis qu'on n'a pas chez nous, mais où les dédicaces sont souvent payantes. On peut payer des moments avant un concert avec un artiste, par exemple. Ça se fait beaucoup.
Tout à fait, ouais. Dans la chatroom, Gwil dit je paierai cher pour avoir Patrick sur Cameo. Malheureusement, je ne suis pas encore à ce niveau de popularité internationale. Presque. Ma chaîne YouTube a presque 10 000 abonnés, donc ça arrive. YouTube.com/notepatrick, c'est la galaxie notepatrick. Mais vous savez bien que si vous êtes patriote, vous êtes déjà dans mon cœur. Et si vous me le demandez gentiment sur Patreon, je peux vous envoyer un message. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me ferait plaisir. Donc, Patreon, c'est la solution. Ça rime en plus. Roku, Je parle de temps en temps, depuis quelques temps, de Roku, parce que c'est une histoire absolument improbable. C'est l'un de ces très nombreux media players qui a allié le logiciel à du matériel et qui a aujourd'hui une part de marché aux États-Unis de 38%. Et Roku, c'était vraiment rien. C'était, vous vous souvenez, je ne sais plus quand ils ont commencé, mais ça devait être au milieu des années 2000, il y en avait 3, 4, 5, 6 différents media players qui étaient des logiciels à la base qui fonctionnaient très bien. Et ils ont réussi à monter tellement haut qu'aujourd'hui, ils ont 50 millions d'utilisateurs actifs et ils en avaient 35 millions à peu près en 2020 et ils ont 38% de part de marché des Smart TV aux US. Et c'est un nom dont je pense qu'il n'est pas impossible qu'on le voit arriver à un moment en Europe également. Bon, la situation est différente parce qu'on a nos offres triple play depuis longtemps en Europe qui changent un petit peu la configuration, mais Roku, c'est peut-être un nom à garder à l'esprit pour ces choses-là. Quoi d'autre, bon, on va passer sur le reste des news. Je pense qu'on a quand même couvert l'essentiel de tout ce qu'on voulait couvrir. Je suis en train de regarder s'il n'y avait pas autre chose. Ah oui, il y a Amazon, Walmart et d'autres revendeurs qui sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour décider s'il est plus avantageux de dire à des gens qui veulent renvoyer un objet, bon, vous le gardez, de toute façon, ça nous coûtera moins cher, donc gardez-le. Donc ça, je trouve ça assez...
Ça m'est arrivé. Également.
Ah oui, ça t'est arrivé déjà.
Ah oui, avec mais souvent pour des petites choses, tu vois, je sais pas, je commandais une gourde en plastique, le truc arrive cassé, je dis bah c'est dommage, elle est cassée, je vous la renvoie, et deux heures après tu reçois un message en disant gardez-la, on vous en renvoie une autre, c'est bon, mais ne vous emmerdez pas avec la logistique du truc, genre c'est bon, et c'est pas nouveau, hein. Il y a très longtemps avant même qu'Amazon soit en France, moi je faisais des grosses commandes sur Amazon aux États-Unis pour des DVD, des bouquins en anglais, etc. Et un jour, mais ça prenait un temps fou, ça passait la douane, enfin tu vois, ça mettait un mois à arriver, et un jour j'attends, et ça n'arrive pas, et puis t'avais pas le tracking en temps réel que t'as aujourd'hui, et j'envoie un message, deux messages, je me dis ah bon, toujours pas, on attend une semaine, bon, finalement ça n'arrive pas, et ils disent bon, écoutez, ça a dû se perdre, on vous le renvoie, et de fait, une semaine plus tard, je reçois mon paquet, et le lendemain, je reçois le même, et là, je rappelle en disant je vous renvoie le paquet de 18 kilos de machin, et ils ont mis deux heures à me dire it's fine, just keep it, give it to charity. Genre, on va pas refaire le mouvement inverse, mais c'est aussi là-dessus qu'ils sont difficiles à battre.
Allez, peut-être un dernier sujet. On parlait de déplatforming. Vous savez qu'il y avait un scandale avec le site Pornhub, le site pornographique, qui utilisait du contenu pornographique non autorisé. Il y avait des choses pas très... En gros, n'importe qui pouvait uploader son contenu. Donc, évidemment, il y avait des gens qui uploadaient des contenus qui n'étaient pas autorisés. Et du coup, le déplatforming a été rapide de la part des grosses organismes de paiement, Visa, Mastercard, etc. Et on a aujourd'hui... alors, c'est pas pour parler de Pornhub spécifiquement, mais on a aujourd'hui des acteurs de films pornographiques qui disent... Le problème de ce qui est en train de se passer, c'est que Pornhub, qui nous sommes des travailleurs légitimes, et ils ne peuvent plus nous payer. Enfin, ils ne peuvent plus nous payer parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont été déplatformés. Et Pornhub a depuis fermé la possibilité d'uploader du contenu d'utilisateurs qui ils n'ont plus a priori le contenu problématique, mais les sociétés en question évidemment ne mettent pas une grande priorité à un site pornographique, donc peut-être qu'ils n'ont pas recherché la chose, revisité leur décision. C'est un témoignage assez édifiant que font les acteurs et les actrices, surtout des actrices d'ailleurs, et c'est pas tant, encore une fois, pour une question de pornographie, mais pour faire le parallèle avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi je mets parfois des bémols, même quand je suis vraiment convaincu de certaines choses. Le déplatformement, c'est surtout une excuse pour moi pour dire en fin d'émission que oui, bien sûr, que même malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qui s'est passé doit être manié avec prudence et avec sérieux. Et c'est pour ça qu'on en parle de ces questions de modération et de déplatformement depuis des années, de modération surtout. On n'en parle pas, on n'a pas commencé à en parler hier. Mais oui, évidemment qu'il faut être prudent avec toutes ces choses-là. Bon. Je crois qu'on arrive à la
fin. C'est fragile
la
démocratie. En fait, la conclusion, c'est que c'est fragile la démocratie. Dans l'ensemble.
Exactement. Je pense que c'est une très très bonne conclusion. La démocratie, c'est fragile, et je pense que pour des gens comme nous, de notre génération, peut-être une conclusion un petit peu plus sérieuse, des gens de notre génération, Cédric, qui ont grandi dans l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'on en est peut-être on le ressent un petit peu plus dans notre chair, un peu moins que la génération de nos parents, mais un peu plus que la génération de nos enfants. On le ressent dans notre chair, cette fragilité de la démocratie, peut-être un petit peu plus. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a cette analyse aujourd'hui. En tout cas, c'est un bon rappel. C'est pour ça que je disais c'est un bon rappel, parce que nous, on nous a bercés avec la Deuxième Guerre mondiale pendant des années. Et bah, peut-être que quand les gens auront vu les images de ce qui s'est passé au Capitole, ça sera un autre rappel dont on se dira bah, peut-être que... Bon. On va conclure cet épisode qui a été très très long, et j'aimerais remercier très chaleureusement Cédric et Leïla d'y avoir participé. Si vous voulez en avoir plus sur nos fantastiques co-animateurs... Où peuvent-ils en avoir plus ? Cédric, je te donne la parole en premier. Où peut-on te retrouver ?
Tout ce que je produis pour lci.fr, @Cédric sur Twitter, et mon petit hobby du dimanche, mon podcast sur la voiture électrique qui s'appelle Les Doigts dans la Prise, dont le nouvel épisode arrive là, dans les heures qui viennent.
Magnifique. Leïla, où te trouve-t-on ?
Et donc, idem, mes productions sur les échos, et puis je suis aussi sur Twitter, Leïla Marchand. Sur Twitter.
Leïla Marchand, le lien sera dans les notes de l'émission. Le lien vers Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment, puisque vous vous souvenez quand même, hein, c'était tout début 2009 quand j'expliquais aux gens ce qu'était Twitter. Et aujourd'hui, vous voyez où on en est arrivé. C'était, alors ça a pris 10 ans, mais j'aurais pas pensé que ça irait aussi loin. Mais c'est quand même intéressant de repenser que en 2009, j'expliquais aux gens, ouais, Twitter, vous voyez, c'est sympa, ça sert à ci, ça sert à ça. C'est un peu aussi un des buts de cette émission, en plus du fait de vous aider à comprendre le monde, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech. C'est aussi un moyen de vous aider à voir ce qui arrive et ce qui se passe et ce qui est important dans tout ça. Donc j'espère qu'on réussit dans notre mission sacrée. Et si vous pensez qu'on vous aide un petit peu et qu'en plus on vous fait passer un bon moment, pourquoi ne pas aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech, où il y a toujours la promotion bonne résolution. Si vous avez pris une bonne résolution, si vous dites « Ok, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis des mois, peut-être des années, là, ça y est, je vais me lancer, je vais devenir patriote, je vais bénéficier de tous ces super bonus qu'on peut avoir en tant que patriote », et ben vous pouvez le faire au niveau qui donne accès au Discord privé, qui donne aussi accès à l'after show, dont je suis sûr qu'il sera très animé pour cet épisode. Vous pouvez y avoir accès à prix réduit sur patreon.com/rdvtech. Allez y jeter un coup d'œil. La promotion se termine bientôt, comme m'a dit de le dire Jérôme Kainborg. La promotion se termine bientôt, donc précipitez-vous, le lien est dans les notes de l'émission. Et je suis bien sûr Patrick, notre Patrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, sur Twitch, sur YouTube, et il y a même un accès au serveur Discord qui a une partie publique accessible à tout le monde, sur notre patrick.com, où vous trouverez aussi le lien pour vous abonner à la newsletter. Ne la ratez pas cette semaine, elle va être plutôt cool. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter sur le site, sur Twitter, sur Facebook, partout. Et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.